Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas Gagnon, vous êtes salué.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien. Comment on peut qualifier, si on fait une analyse froide là, du bilan de François Legault, j'en ai fait une, là, puis d'ailleurs, je l'ai remercié pour nous avoir prouvé que le tout à l'État, c'était un échec complet. Là.
Oui, bien c'est ça. S'il y a bien une chose qu'on peut retenir de François Legault, c'est on a la démonstration pure et simple que le modèle québécois a atteint ses limites dans tous les sens du terme. Qu'on parle là, de la gestion de nos différentes infrastructures, de nos différentes institutions comme le système de santé, où est-ce que les réformes n'ont jamais donné lieu à quelconque changement. Là, on a créé une nouvelle agence pour Santé Québec, finalement. Pour le reste, on voit très bien qu'on n'a même pas été en mesure de négocier avec les médecins. Là, le projet de loi 2, ça a été un échec sur toute la ligne. Qu'on parle du transport des infrastructures, je veux dire, on est à la même place qu'on était en 2018, qu'on parle du troisième lien de Québec. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sinon, globalement, pour nous, ce qu'on retient à la FCC, c'est vraiment l'héritage au niveau tant de la fiscalité que de l'état des finances publiques. On rappelle que quand François Legault arrive au pouvoir, en 2018, ou du moins quand il ouvre les livres pour le déposer son premier budget en mars 2019, le gouvernement du Québec avait un surplus record, là, de probablement le plus important surplus budgétaire de l'histoire du Québec devant ses yeux. Et là, bon, on a possiblement l'un des pires déficits de l'histoire du Québec, qui continue de s'accumuler et qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on va finir par le résorber. On n'a aucun plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. On a eu une première décote en 30 ans par Standard & Poor's.
Une décote, il faut le faire. Le Québec a été décoté, là.
Exact. Donc c'est ça, je fais souvent la blague, c'est la dernière fois que le Québec a été décoté, le Canadien de Montréal gagnait encore la Coupe Stanley. Là. Donc c'est vraiment, on remonte loin en arrière là, pour...
On va peut-être la gagner poche dans une couple d'années, là, mais...
Oui, ben j'ai l'impression que le Canadien de Montréal attend de la gagner avant qu'on rééquilibre le budget au Québec là, dans l'état des choses. Donc, on verra rendu là. Mais il y a aussi le fait que la dette a constamment augmenté là, pour en citer un qu'on connaît tous. Effectivement, je pense qu'un des principaux héritages de François Legault, c'est la croissance de la dette. Il arrive au Québec, à la tête du Québec en 2018. En 2019, la dette était de 199 milliards. On parle vraiment de la dette brute du gouvernement du Québec. Puis là, présentement, elle est alignée pour monter à 276 milliards. Donc, on a augmenté le Québec comme ça se peut pas. Puis d'un autre côté, est-ce qu'on a vu vraiment une amélioration dans les services, dans les infrastructures et tout? Pas vraiment. C'est sûr que je peux souligner quelques bons coups, comme je l'ai fait sur les réseaux sociaux hier, entre autres l'harmonisation de la taxe scolaire qu'il a faite dès le début de son mandat. C'était pas une mauvaise chose en soi. Il y a aussi... la baisse d'impôt de 1 point de pourcentage sur les deux premiers paliers d'imposition qui a été livré en juillet 2023.
Il a baissé les impôts des citoyens, mais il a permis aux municipalités de venir nous chercher de l'argent par la porte dans l'arrière.
Exact, avec le fameux projet de loi 39 qui ont passé en 2023 ou en 2024. Bref, ce qui a donné la possibilité aux villes comme Montréal puis Québec d'augmenter les taxes sur les matriculations. On a vu comment ça pouvait avoir un impact direct sur le portefeuille des gens. Puis c'est pas fini. Là, en plus, on a comme l'augmentation du permis de conduire qui s'en vient, quoi que ça n'a rien à voir avec le goût directement. Mais bon, les automobilistes ont été pas mal la cible de François Legault. Faut dire aussi qu'il aurait pu les aider à plusieurs égards, comme d'autres provinces, que ce soit avec des baisses de taxes sur l'essence. On se souvient quand le prix de l'essence a atteint 2$ le litre en 2022. François Legault a absolument rien fait à ce moment-là pour aider les automobilistes, alors qu'en Ontario...
À rien.
C'est ça, en Ontario, puis à Terre-Neuve et Labrador, puis même au Manitoba, là. Je veux dire, on a des gouvernements libéraux, progressistes conservateurs, puis aussi néo-démocrates qui en ont fait plus pour les automobilistes.
Ils ont coupé leur taxe carbone, eux autres.
Exact. Mais nous, non seulement on n'a pas eu de break à l'essence, ne serait-ce que sur les taxes directes, comme la taxe provinciale sur les carburants, mais on a encore la taxe sur le carbone que ça, il a refusé de l'éliminer par tous les moyens possibles. Il était même rendu à utiliser les revenus de la taxe carbone pour finalement mettre ça dans le fond des générations au lieu de vous donner un répit aux contribuables. Donc, tu sais, au final, l'héritage de François Legault pour les contribuables d'aujourd'hui, c'est très peu de marge de manœuvre supplémentaire dans nos poches. Puis pour les contribuables de demain, c'est une plus grosse dette, plus de frais d'intérêt sur la dette, puis aucun plan pour rééquilibrer les finances, faire en sorte que les générations futures se retrouvent avec un peu la marge de manœuvre qui leur revient de droit là, quand ils vont gérer leurs propres finances.
Oui, effectif du gouvernement du Québec sous le gouvernement Legault 2017-2018, il y avait 485 399 fonctionnaires, fonction publique et hors fonction publique, là, santé et école et autres, éducation. Et là, 2024-2025, 608 000 794 personnes, c'est 25,4% de plus de l'effectif du gouvernement. Ça, quand tu regardes les déficits, tu regardes le budget de l'État aussi qui a explosé durant la période de Legault. Les salaires des fonctionnaires, il a donné... Écoute, ils se sont votés eux-mêmes une augmentation de 30 % juste avant d'aller négocier avec les fonctionnaires.
Exact. Ça, je pense que ça a été possiblement la pire erreur de communication qu'un gouvernement pouvait faire à tout et partout. On se rappelle que les syndicats, ils se promenaient carrément avec des pancartes qui indiquaient carrément ça, en disant, ben, si vous êtes donné 20 % ou 30 % d'augmentation de salaire à l'Assemblée nationale, vous nous en donnez un peu plus que l'inflation comme vous nous promettez. Puis la réalité, c'est que, je veux dire, au final, même si les syndicats ont eu le droit à des conventions collectives beaucoup trop généreuses par rapport à la capacité de payer des Québécois, à la fin de la journée, ils ont bel et bien remporté la joute au niveau des communications. Puis ça, ça démontre à quel point. Puis on peut se rappeler, je pense, 2023, ça a été l'année de le début de la fin pour le gouvernement de François Legault, du moins pour lui en tant que premier ministre, parce que c'est là aussi qu'on a eu des nouvelles comme l'histoire d'à peu près 7 millions qu'on donnait là, pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec. Juste ça, je pense que ça a été un élément déclencheur qui démontrait que ce gouvernement-là n'est pas sérieux. Mais pour venir à la fonction publique, on se rappelle que Legault, quand il est arrivé au pouvoir, oui, ça a augmenté. On a ajouté plus de 100 000 postes en tout et partout dans la fonction publique.
Ouais.
Legault promettait d'en couper 5 000 quand il est arrivé en 2018.
Ce qu'il n'a jamais fait. Là.
Ben, ils l'ont jamais fait, mais là, ils essaient de le faire à la dernière minute. C'est comme c'était le seul
point du maquillage. Ça, c'était un dernier coup de barre pour essayer de nous maquiller ça. Tu sais, le cadavre, faut-tu le maquiller comme il faut, là?
Ben, exact. Là. Puis là, on élimine 2000 postes maintenant, puis peut-être 3000 d'ici 2027 encore. C'est bien cute, mais si ce gouvernement-là est plus au pouvoir en 2027, puis qu'on se retrouve avec un autre parti, ben ça se peut que tous ces efforts-là soient tombés à l'eau. Fait que de faire des coupeurs comme ça en fin de mandat quand on est impopulaire, c'est mal avisé. Puis au final, c'est oui, le coût de la fonction publique, ben si on augmente le nombre de fonctionnaires, on augmente aussi le coût de la fonction publique et aussi les salaires. Ça nous coûtait 45 milliards rémunérer tout le monde dans la fonction publique en 2018. Là, ça nous coûte pas loin de 65 milliards cette année.
Hey, c'est incroyable. Il a quasiment doublé la masse salariale.
Ben c'est ça. Donc, nous, ce qu'on répète constamment, c'est que Legault, il a carrément perdu le contrôle sur la fonction publique. Puis par extension, il a perdu le contrôle sur les finances publiques. Les deux sont carrément liés. Puis ben ça, c'est possiblement le principal leg, parce que veut pas que peu importe qui va succéder à François Legault, que ce soit un autre parti politique lors des prochaines élections, que ce soit dès maintenant avec la course à la chefferie, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que vous allez faire pareil que François Legault ou vous allez faire du ménage là-dedans? Parce que là, il y a un déficit majeur, massif, avec aucun plan pour l'équilibre budgétaire. Je veux dire, il va falloir que quelqu'un s'assoie avec Éric Girard et fasse comprendre que tu dois en fournir un maintenant, il y a un plan crédible, que ce soit pour les Québécois ou que ce soit pour les agences de crédit qui regardent le Québec présentement. Essentiellement, le départ de Legault doit signifier un changement de culture. Je dis pas qu'on doit changer de gouvernement, mais le gouvernement doit changer. Puis c'est ça, on pourrait aussi parler longuement là, de cette tendance. Là, dès ce matin, ça a été annoncé qu'on va mettre 35 millions de dollars dans Bombardier. Comme quoi, est-ce que malgré tout, on continue à faire cette distribution de chèques avec l'argent des contribuables via des subventions aux entreprises. Puis la moyenne au bâton de la CAQ là-dessus était exécrable. Qu'on parle de la filière électrique ou de toutes les autres paris, je veux dire,
Mais comment on explique ça, là? Tu sais, au niveau du risque, quelqu'un qui investit, tu dis, moi, la filière batterie, là, je vais limiter mon risque puis je vais demander aux autres filières aussi de m'en donner encore pour plusieurs années, là. Le gaz, le pétrole, l'électricité notamment. Mais là, on a tout mis dans la batterie. Et là, ça a foiré. Puis là, on se demande pourquoi ça va mal.
Bien, surtout qu'on dirait qu'on a tout mis dans les batteries puis dans les lions électriques, là, qui fait pas mal partie de la filière. Déjà, on avait commencé auparavant, mais c'est à partir de 2019 que ça s'accélère. Puis on dirait que je ne sais pas comment dire ça, mais avec le changement de gouvernement aux États-Unis en 2020, c'est comme si François Legault avait carrément aligné sa politique en se disant, ben, écoutez, là, c'est l'heure du changement, Trump n'est plus dans les parages, c'est un gouvernement démocrate, puis en plus, à ce moment-là, on se rappelle que les démocrates de Joe Biden faisaient passer la Inflation Reduction Act, là, qui est rentré en vigueur, je pense, en 2022, puis ça, ben, ça a fait en sorte qu'il y a eu des investissements massifs de la part du gouvernement américain, puis des subventions à toutes les entreprises pour justement se lancer dans la filière électrique. Puis là, Legault s'est dit, ben c'est l'opportunité pour nous justement de créer ces mêmes opportunités-là au Québec, d'entrer dans une compétition où est-ce que chacun va avoir sa part de la filière électrique nord-américaine.
Oui.
Mais on est à un changement de gouvernement, finalement, dès que tout ça tombe à l'eau, puis c'est exactement ce qui s'est produit. On le voit avec toute la question de l'achat des voitures électriques en Amérique du Nord, ça s'est effondré avec le changement de gouvernement, mais déjà auparavant, il y y avait des ralentissements.
Ouais.
Mais là, on sait que la seule manière pour que ça reprenne, ça serait qu'il y ait des investissements massifs, ce qui a déjà été fait et qui ne donne pas de résultats au final. Puis ça, c'est sans oublier tous les échecs qu'on peut parler longtemps de Nordvolt et compagnie, où est-ce qu'on a perdu des centaines de millions. Puis là, c'est, il y a une perte de confiance à la fois des contribuables et aussi du milieu des affaires par rapport à cette initiative-là.
Oui, puis là, c'est dit avec l'Ontario, là, ils se vantent que le revenu disponible qui était de 88,6% par rapport à l'Ontario est rendu à 91,8%. Mais pendant ce temps, l'Ontario, qui était à certains niveaux, a dégringolé, elle aussi, là, à cause de ce qu'on a vu, notamment dans l'industrie automobile, dans les dernières années. Donc, on se compare à l'Ontario, mais l'Ontario a dégringolé. Puis nous autres, tout ça, on a dégringolé. On est passé de 45e à 55e en Amérique du Nord pour le revenu disponible. Donc, on se compare avec quelqu'un qui dégringole, ça va bien?
Ben c'est ça, c'est facile de se comparer avec quelqu'un qui dégringole, mais si on se comparait avec les meilleurs, on serait peut-être un peu moins fiers ce matin. Mais il y a aussi le fait que l'indice sur lequel il se base en disant ben oui, inquiétez-vous pas, les Québécois se sont enrichis au cours des dernières années. Voyez le revenu disponible dans leur net. Dans leur poche, ben il a augmenté. Puis ça, c'est en se basant, bien sûr, sur, entre autres, les baisses d'impôts, mais aussi par rapport à l'indice de l'inflation. Puis c'est là que j'ai un gros bémol, parce que l'indice de l'inflation versus l'inflation ressentie réelle, c'est pas tout à fait la même affaire. Oui, l'inflation de 3% ou de 2% selon les tendances actuelles, mais l'inflation alimentaire, on est dans du 20% dans certains cas.
Oui, ben oui,
l'inflation énergétique, l'inflation par rapport au logement ou par rapport
à l'habitation. Mais sa taxe carbone qui veut pas couper, là, elle coûte cher aux Québécois, là.
Ben juste là, juste pour une famille qui a un véhicule dans l'entrée, on parle de pas loin là, de 260 $, 275 $ par année. Si on augmente bien sûr le nombre de véhicules, puis ou qu'on chauffe au gaz naturel ou n'importe quelle autre chose qui utilise du carbone, automatiquement on peut voir la facture augmenter à du 500 et plus par année, une facture qui n'est plus assumée par les autres Canadiens. Fait que déjà au Canada, au Québec, faut le rappeler, on a la pire inflation au Canada présentement. En plus, on en avait parlé, je pense, lundi, le Conference Board, ils ont fait leur rapport il n'y a pas longtemps qui démontre que les perspectives économiques pour le Québec pour 2026, c'est les pires de toute la Confédération canadienne. Là. Puis la dernière mise à jour économique de Éric Girard laisse entendre qu'on va avoir une croissance économique assez, voire presque nulle, en fait, pour la prochaine année.
Oui.
Donc ça fait partie du legs de François Legault. Donc je peux saluer le monsieur pour ses années de service à l'État québécois, que ce soit dans les années 90, début 2000, et jusqu'à tout récemment, en relançant son parti politique. Je pense qu'on peut donner le mérite d'avoir quand même fait quelque chose d'impressionnant là-dessus, mais au final, son legs, je persiste des signes, à part la dette puis des mauvaises décisions économiques, si on ne se concentre que sur ces métriques-là, ben c'est un échec sur toute la ligne. Du moins, son gouvernement, peu importe qui va lui succéder, va avoir toute une patate chaude avec laquelle il va devoir dealer pour les prochaines élections.
Oui, puis on se demande si ce gouvernement-là va être capable de faire élire un député là, aux prochaines élections. Toute une côte à remonter pour le prochain chef de la CAQ, là. C'est ce qu'on voit, là. Puis là, on comprend qu'il n'y a pas personne qui veut se bousculer au portillon, là. Parce que on voit les défis, le merdier dans lequel les Québécois sont. Quand on dit que l'économie québécoise va faire 0,5% cette année, on peut pas écrire à sa mère. Fait qu'on lui donne quoi au bilan? Un échec? Il y a quoi, eux?
Ben, si on y va sur une note globale, je serais peut-être un peu méchant, moins méchant, je dirais D, mais ça risque, parce que je veux dire, il y a quand même quelques petits accomplissements à droite et à gauche. On peut parler peut-être de la loi 21 sur la laïcité qui a quand même été assez rassembleuse, mais dès qu'on tombe en 2020, on tombe dans la pandémie, puis ça, j'ai vraiment pas une bonne note à donner.
Non, mais au niveau économique, c'est un bilan c'est désastreux, là.
Oui, économique, c'est ça, la seule manière de rendre le bilan de François Legault reluisant, c'est de le comparer avec l'Ontario qui est encore moins bon.
Oui, mais l'Ontario a eu des défis beaucoup plus importants que le Québec là, là-dedans. Là.
Oui, puis on
a... Ils ont dégringolé. Mais c'est le Canada au complet aussi là, qu'il faut regarder là, dans le portrait de l'ensemble. Si vous regardez depuis 2015, là, les revenus par habitant au Canada, ça dégringole. Les États-Unis, ça monte en flèche. Notre productivité est complètement anéantie.
Oui, puis en plus on parle souvent du revenu disponible pour exprimer l'enrichissement des Québécois, mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est le pouvoir d'achat. Et ça, le pouvoir d'achat de bien des Québécois, il a reculé dans les dernières années. Puis ça, il n'y a pas grand-chose qui a été fait par François Legault pour ne serait-ce que aider les contribuables qui en arrachent le plus. Donc oui, je pense que la note qu'on peut donner pour le bilan économique, pour le bilan des finances publiques puis de la fonction publique, c'est échec sur toute la ligne.
Bon, Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables, merci beaucoup. Et on s'en parle. Salut.
Toujours un plaisir. À bientôt.
C'est pas moi qui le dis, là. C'est un échec.
Total.
Lui, il est là-dedans. Nicolas, il est là-dedans journée longue.
Oui. Tu sais, ce que je retiens, c'est que le leg économique, c'est d'avoir perdu carrément le contrôle sur les finances publiques.
Et lui, ce gars-là, là, Legault, il nous vendait l'idée qu'il était un comptable.
Ah oui, on est un parti d'économie, d'économistes.
C'est épouvantable.
On va faire de l'investissement pour le Québec.
Si tu regardes ça, le bilan, là. Tu sais, je veux dire, t'es un charlatan, là. Puis t'arrives, puis moi, je te vends des...
Ah oui, des bébelles.
Je te vends là, du rendement, là, puis finalement, c'est zéro pin bar.
Investis en ça va être bon.
Ah oui.
Lyon Électrique, Nordvolt, filière batterie.
Mais ça, c'est l'argent des contribuables.
Exact.
C'est ça qu'il a fait.
C'est, finalement, au lieu de faire des investissements, il a réussi le contraire. C'est des pertes et des pertes et des pertes.
Hey, c'est simple. Tasse-toi de là. Tu connais pas ça. Tasse-toi de là. L'État, là, est partout. Tasse-toi. Enlève-en des couches. Fais confiance à ton peuple. Fais confiance à tes entrepreneurs. Fais confiance à ceux qui sont les meilleurs dans leur business au lieu de choisir les gagnants comme ils ont fait dans les dernières années. Mais c'est ça que ça donne. On choisit les gagnants. Tout à l'État. Système de soins de santé. Tasse-toi. Donne-en au privé. Puis de toute façon, ça ne change rien. Ta carte santé va permettre que tu ailles au privé ou pas. La prestation va se payer pareil. Tasse-toi. Non.
Tasse-toi.
Tout à l'État, le go.
Ah oui.
Aïe, aïe. Ben, continuons. Après la pause, on va changer de registre. Là, on s'en va dans les technos. François Charon débarque.
Coup sûr. Dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy.
Radio X.